France Musique. Musique Matin, le 7-9 de France Musique, Jean-Baptiste Urbain.
Il fait partie des quelques-uns des plus intéressants, des plus attachants, des plus inspirés. Nathanaël Gouin est l'un des pianistes de ce qu'on appelle la jeune ou nouvelle génération à suivre. Et France Musique le suit depuis plusieurs années déjà. Bonjour Nathanaël Gouin.
Bonjour.
Vous avez ce sentiment d'appartenance à une génération de musiciens avec des points communs?
Ne serait-ce que par les amitiés qu'on entretient avec j'ai l'impression de faire partie d'une génération, mais en même temps je suis ami avec des gens qui ont 8 ans de moins, 8 ans de plus, donc à partir de quand est-ce que c'est plus une génération? Oui, effectivement, un sentiment d'appartenance et de solidarité un petit peu entre pianistes, il y a quand même beaucoup d'amitiés qui se font et c'est un sentiment assez fort, oui.
Amitié et concurrence, on peut être ami et en concurrence ou c'est pas du tout cet esprit-là?
Non, je crois que évidemment non, mais ça peut paraître politiquement correct. Mais j'ai pas du tout ce sentiment-là de concurrence et je l'ai pas eu non plus au conservatoire qui n'ont pas été des années d'enfer comme on nous prédisait quand je suis monté à Paris, comme on dit depuis Toulouse. On prédisait un petit peu cette tendance-là et j'ai eu le sentiment d'être très protégé, toujours l'être avec des gens absolument adorables et vraiment avec une finesse d'esprit je crois que tout le monde a sa place à partir du moment où on a des choses à dire et il y en a beaucoup qui ont des choses à dire. Donc oui, il y a une génération.
Des profs en commun aussi, on en parlait tout à l'heure dans le reportage de Sophie Anastasio, c'est cette semaine la rentrée au Conservatoire supérieur de musique de Paris, une rentrée forcément pour eux, élèves comme profs, particulière, inédite. Vous seriez aujourd'hui nouvel étudiant au Conservatoire de Paris, vous auriez une appréhension particulière?
Ah oui, complètement, oui. Je n'ose imaginer à quoi ressemble le conservatoire aujourd'hui, à quoi peuvent ressembler les leçons avec tous ces gestes barrières et puis cette génération qui est un peu paralysée forcément. Et bon, c'est n'est pas propre qu'à la musique, c'est un peu partout, mais il y a quelque chose d'édifiant, oui.
Allez, on décontamine le clavier du piano et on écoute le nouveau disque de Nathanaël Gouin qui est notre invité jusqu'à 9h. Ce n'est pas au piano qu'on pense quand on donne son nom, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Georges Bizet, c'est pourtant à lui que vous consacrez votre nouvel album. Bizet sans parole, Bizet original, Bizet transcripteur, Bizet transcrit, paraphrasé par vous ou par Rachmaninov. Thank you. Vous avez reconnu l'Arlésienne de Bizet, mais transcrit par Rachmaninoff, le Menuet. C'est Nathanaël Gouin au piano, c'est son nouveau disque qui paraît chez Mirare. Bizet sans parole, l'une des nombreuses transcriptions signées Rachmaninoff, il y a le choix.
Oui, c'est ça. Oui, oui, non, vraiment, mais c'est merveilleusement bien fait de la part de Rachmaninoff. Et puis c'est étonnant qu'il prenne ce thème-là, pas un autre. Voilà. C'est une œuvre qui m'a vraiment intéressé, qui est un format court avec beaucoup d'esprit, qui est très très bien mis au clavier, grossi, je puis dire, au clavier par Rachmaninoff. J'étais très heureux de pouvoir montrer cet aspect-là de sa musique.
Alors sur ce disque, il y a des transcriptions comme celle-ci. On écoutera tout à l'heure une transcription signée Nathanaël Gouin, voire une paraphrase. Il y a aussi quand Saint-Saëns devient transcripteur. Et puis il y a aussi des pièces originales pour piano. D'abord, généralement, pourquoi vous êtes lancé dans ce Bizet pour piano qui est assez surprenant et pour le moins original?
Ouais, à la base, il y a un amour pour la musique de Bizet et de l'opéra qui me touche depuis très longtemps, avec des mélodies absolument inouïes, très épurées, un art très épuré. Après, il y a une rencontre un peu avec ce compositeur-là où je me suis rendu compte que c'était un pianiste absolument inouï à son époque, qui avait été même adoubé par Liszt. J'ai essayé un peu de tresser, de voir à l'intérieur de sa vie et me rendre compte que c'était un homme qui aurait pu faire une carrière de pianiste inouï, qui aurait pu se cantonner à un compositeur purement de piano et qui a refusé ça, qui a choisi presque la difficulté puisqu'il a voulu être un compositeur d'opéra, ce qu'il est devenu. Et comment d'ailleurs. Donc, il a fait ce choix-là qui lui l'a amené vers certaines difficultés, mais on sait assez peu qu'il avait un niveau d'instrument et de connaissance du piano, qui était son instrument d'origine, absolument incroyable. Et donc, tout au long de sa vie, il a quand même composé.
Courte vie, hein, 37 ans.
Courte vie, ouais. Ouais, mais ô combien, avec quelle profusion. Voilà. Après, évidemment, c'est un immense compositeur français qu'on connaît tellement bien pour Carmen. Mais est-ce qu'on connaît ses œuvres beaucoup moins connues pour le piano et qui, je trouve, mérite d'être remise au goût du jour. Les variations chromatiques sont incroyables, ont fait l'effet d'une mode un peu dans les années 70, c'était très enregistré. Maintenant, on les joue beaucoup moins.
Un thème assez énigmatique, assez curieux, puis ensuite c'est 14 variations, mineures, majeures.
Mais c'est un défi presque de composition et qui s'est lancé, c'est-à-dire que plutôt de partir sur un thème, une mélodie, comme il sait si bien faire, comme on peut avoir dans la romance de Nadir, Carmen, c'est truffé de thèmes incroyables. Là, il part d'une simple gamme chromatique, montante et descendante.
Oui, ça fait pas Bizet.
Voilà, exactement. C'est très étonnant. Et je crois qu'il voulait ça. Il s'est lancé ce défi-là et il compose une quinzaine de variations sur cette espèce de non-thème. Donc, à la base, il y a un peu une sorte de barreau d'honneur comme ça. Et il en fait quelque chose d'incroyable. Il passe de majeur à mineur. Le thème revient à la fin. Il y a quelque chose de très audacieux là-dedans. Il en était assez content. Voilà, c'est une œuvre qu'on joue très peu maintenant. Les Chants du Rhin, c'est la même chose aussi. Donc, en découvrant ces œuvres-là, il y a une forme d'évidence et faire découvrir des recoins qu'on connaît moins d'un compositeur qu'on connaît si bien pourtant.
Les Chants du Rhin, il y a ce mot, chant. C'est un piano qui chante quand même. Il y a toujours une mélodie qui, en tout cas, dans ce cycle-là.
Oui, ouais, c'est ça. Il était obsédé, je crois, par la vocalité. C'est aussi quelque chose qui m'intéresse énormément au piano. C'est un défi inouï de faire chanter un piano, de donner l'impression de phrases, même de paroles. Les Chants du Rhin ont pour ça quelque chose de vraiment d'une montagne un peu à gravir. C'est extrêmement épuré avec des mélodies qui tiennent des fois en 3-4 notes, vraiment, il y a quelque chose de très difficile par la facture de ces romans sans parole à rendre. Il y a tout cet onirisme, ce mélange.
Et l'inspiration, il s'inspire de Mendelssohn.
Oui, de Mendelssohn. De Schumann aussi, on peut entendre aussi peut-être les Chants de l'Aube. Et tout cet univers du Rhin est nourri par. C'est dans le sens Rhin, c'est pas la géographie, c'est vraiment le. Ce fleuve qui a nourri toute une forme de
lyrisme.
Voilà, exactement. Il y a vraiment dans le Rhin une sorte de symbole Il choisit ce mot-là pour tout ce que ça va donner. Après, les titres sont en allemand aussi, mais c'est tout ce mélange, tout ce que ça évoque chez lui, qui donne ce mélange des genres qui m'intéresse énormément avec ces six romans sans parole.
Sans parole, quoique sans parole, mais littéraire.
Voilà, exactement.
Voici la fin des Chants du Rhin, le retour. Le retour, la fin des Chants du Rhin de Georges Bizet. Georges Bizet original, ici au piano. Nathanaël Gouin joue sur ce disque Bizet sans parole qui vient de paraître chez Mirare. Vous pourrez aller écouter Nathanaël Gouin le 21 octobre à Paris, à la Scala. Quelques jours plus tôt, même pas mal plus tôt, les 26 et 27 septembre, Louvre-Lens au festival Muse et Piano. Et puis plus tard, le 17 novembre également, au musée d'Orsay à Paris, concert à midi et demi, avec Bizet au programme. Entre autres, Nathanaël Gouin, quelques dates de concert qui sont données comme ça finalement. Vous en avez, si tout se passe bien, vous en avez pas mal ces mois-ci. Et même, vous avez joué cet été malgré tout, malgré beaucoup d'annulations.
Oui, il reste des concerts qui sont maintenus et fort heureusement, c'est très difficile. Ce qui est très compliqué pour tout le monde, c'est quand au dernier moment on se retrouve avec une restriction et devoir annuler les concerts. C'est des cas assez extrêmes, mais globalement, il y a vraiment beaucoup de personnes qui se battent pour que la culture subsiste, même avec ce fameux siège sur deux. Donc, il y a de très beaux moments. La Rock en a été un avec vraiment
la
Rock d'Anteron. Voilà, il y avait beaucoup d'endroits. J'étais à Troyes encore ce week-end. Il y a une ferveur et on le sent. Et tout le public le dit. Il y a une envie de musique vivante. Donc, c'est très rassurant malgré l'incertitude de ces mois qui arrivent.
Des initiatives, des concerts aussi donnés au dernier moment. Vous êtes venu d'ailleurs cet été chez nous pour le festival France Musique. Vous avez joué Grieg. Enfin voilà, il faut s'adapter. Vous les avez vécus comment, vous, ces mois-là, ces mois d'arrêt total? Vous avez travaillé, vous avez laissé tomber le piano, vous avez peut-être chéri d'autres passions. On m'a dit que vous composiez.
Qui est-ce? Alors non, mais effectivement, mais ça a été bon. C'est trois mois pour tout le monde. On a le temps de faire beaucoup de choses. Ça a commencé avec une période d'arrêt de l'instrument, quelques semaines, qui a vite été repris par une envie tout d'un coup de se mettre à de nouveaux répertoires. Effectivement, je me suis dit que c'était le moment d'écrire un petit peu de musique pour voir ce que ça donnait, et puis reprendre. C'est une vieille passion qui m'a toujours suivi, mais ça reste dans le boudoir, si j'ose dire.
Ah bon? Voilà.
Non, ça sortira quand il y aura quelque chose qui me plaira, mais au-delà de ça, oui, c'était une forme d'introspection. On n'avait tous aucune idée de combien de temps ça allait durer, donc je me souviens avoir abordé des répertoires que j'aurais pas fait toucher habituellement, du Scriabine, beaucoup, des œuvres comme ça. C'était une période en soi de liberté et de curiosité que j'espère avoir mise à bon escient. Voilà. Alors, c'est au final, on en garde un souvenir plus positif qu'au moment où on l'a vécu, probablement.
Alors, on attendra avant d'entendre les œuvres signées Nathanaël Gouin, quoique tout à l'heure on va écouter une paraphrase, mais en tout cas, vous jouez aussi la musique des autres et la musique toute fraîche et créée des autres. Ce sera le 10 octobre, le festival aux armes contemporains à la Scala à Paris, avec l'ensemble de The 2M. On parlait de Paul Méfano tout à l'heure, qui vient de disparaître, et vous jouerez notamment la musique de Raphaël Sévère, le clarinettiste. Ça, c'est une création mondiale. Rendez-vous donc le 10 octobre. Vous parliez de ce goût pour le chant, pour le lyrique. Il vient d'où?
Alors, je ne me suis jamais caché, mon père est chanteur d'opéra.
Il n'y a pas de honte.
Voilà, évidemment, non. Et donc, j'ai grandi dans cet amour de la voix, de l'opéra dans toutes ces époques-là. Et c'est quelque chose, j'ai fait un petit peu de violon aussi, donc il y a tout un... ça a été mon univers musical, donc effectivement j'essaye de retrouver ça à travers le piano, qui reste un grand monsieur avec des marteaux, et je me rends compte que c'est des choses que je peux pas éviter, ça fait partie de moi, et à travers ce disque Bizet, je me suis rendu compte au fur et à mesure que c'est ça que j'essayais de retrouver, qui m'habitait. Alors, donc voilà, est-ce qu'on le réussit ou pas, mais en tout cas ça vient de là. Mais en tout cas, cette romance de Nadir, c'est une mélodie que j'entends depuis très jeune, qui me touche énormément et qui a vraiment m'a suivi, et donc ça a été assez évident. Il y en avait d'autres que j'avais envie de transcrire aussi. On transcrit énormément les mélodies de Carmen pour tout instrument, mais cette mélodie des pêcheurs de perles, je me suis rendu compte qu'il y avait assez peu de choses qui avaient fait dessus, alors que c'est une mélodie qui me paraît tellement universelle et d'une simplicité désarmante, que je me suis permis ce sacrilège, en quelque sorte.
Sacrilège. Mais non, on part pour Venise avec Nathanaël Gouin. Voici sa paraphrase sur la romance de Nadir. Ça n'est pas sacrilège, c'est magnifique.
Thank you.
va faire quelque chose qui se fait pas. On va parler sur la musique, Nathanaël Gouin, mais on peut retrouver en entier cette paraphrase sur le disque. Il y a aussi un clip d'ailleurs qu'on peut voir sur internet. On tape Bizet, Nathanaël Gouin, et on voit ce magnifique clip tourné à Venise l'hiver. C'est d'ailleurs une photo de Venise l'hiver sur ce disque. C'est quoi une paraphrase?
C'est un mot un peu pompeux pour donner l'idée qu'on se permet une outrance sur une phrase. Voilà, peu importe ce qu'on fait dessus. Évidemment, ça a été rendu populaire par Liszt, mais c'est peut-être la distinction est à faire avec une transcription, parce que on se permet quand même des largesses, ce qui est le cas, tous ces arpèges, main droite, main gauche qu'on entend derrière, ce sont vraiment des largesses. Donc voilà. Non, après c'est la forme de liberté qui vient avec, tout en gardant vraiment l'ossature de la mélodie. Voilà. Après, Liszt mettait plusieurs thèmes à la suite. Là, il y en a un seul, en respectant vraiment la forme de la romance de Nadir. Donc voilà, j'ai un peu lutté pour savoir comment appeler ça. On peut le trouver sous le nom de Venise, ça peut être simplement une transcription de la première version de cette romance de Nadir, ça peut être une paraphrase, peu importe. Voilà.
Appelons-la Venise, cette paraphrase sur la romance de Nadir. Georges Bizet, Nathanaël Gouin, le disque s'appelle Bizet sans parole, il vient de paraître chez Mirare et on pourra vous entendre donc entre autres le 21 octobre à la Scala. En début de demi-heure, tout à l'heure, Nathanaël, on parlait de ces choses en commun qu'il y a entre des musiciens, des pianistes. Je me disais peut-être que plus que d'autres générations, le piano n'est qu'un instrument, et vous pourriez, alors vous avez parlé de composer, mais vous pourriez, on parlait d'opéra, je sais pas, diriger, être chef de chant, enfin, en tout cas, le piano n'est pas une fin en soi, j'ai le sentiment, peut-être.
Oui, c'est exactement ça, j'aurais peu de choses à rajouter, enfin, j'ai fait les deux, le piano et le violon, et très vite, le piano est apparu comme une évidence, parce qu'il était cette base de tremplin. Voilà, à partir du chant jusqu'à la musique d'aujourd'hui, réduire des quatuors, des symphonies, c'est une base d'ouverture absolument inouïe, et c'était avant tout ce sentiment de liberté énorme de pouvoir se balader dans le répertoire qui m'a plu comme jeune homme. Après, quand on aborde des choses plus sérieuses en grandissant, on essaye de garder cette fraîcheur là évidemment, pour moi le piano c'est vraiment si on devait se réduire, j'ai assez longtemps fui l'idée du récital en étant jeune parce que justement je voulais garder plus longtemps possible cette ouverture à la musique de chambre, à la composition aussi jeune si ça m'intéressait, et à la vocalité, etc. Donc oui, vous avez tout dit.
Jouer ensemble, c'est ce qui vous a manqué aussi pendant ces mois d'arrêt.
Ah oui, vraiment. Ça a été vraiment quelque chose d'assez inouï de retrouver cette sensation-là après 4-5 mois cet été. Donc ça, je n'oublierai jamais l'envie qu'il y avait, l'envie débordante, la fraîcheur qu'on avait un petit peu, dont on avait besoin, qui est venue comme une chose positive après ce confinement, de retrouver la vibration réelle de la musique partagée. Donc, tout ça n'est qu'un souvenir lointain.
Et là, on vous entend avec Guillaume
Gillem.
Avec Guillaume
Gillem et Yann Le Vieux-Noix. Ouais. Thank you.
Ça, c'était un autre disque paru en tout début d'année, Korn Gold Beethoven,
c'est bien ça,
en janvier. Et c'était le scherzo du premier trio de Beethoven, Nathaniel Gouin au piano, Guillaume Chelem au violon, Yann Le Vieux-Noix au violoncelle. Merci beaucoup, Bizet Merci sans parole, vous. Ça vient de sortir. On pourra donc vous entendre, entre autres dates, fin septembre au Louvre, Lens, au festival Muse et Piano.
À réécouter sur francemusique.fr.